Rousseau juge que les fables de La Fontaine ne peuvent être comprises par les enfants et même sont immorales. Émile n'apprendra jamais rien par cœur, pas même des fables, pas même celles de La Fontaine, toutes naïves, toutes charmantes qu'elles sont. Car les mots des fables ne sont pas plus les fables que les mots de l'histoire ne sont l'histoire. Comment peut-on s'aveugler assez pour appeler les fables la morale des enfants sans songer que l'apologue, en les amusant, les abuse, que, séduit par le mensonge, il laisse échapper la vérité, et que ce qu'on a fait pour leur rendre l'instruction agréable les empêche d'en profiter. Les fables peuvent instruire les hommes, mais il faut dire la vérité nue aux enfants. Sitôt qu'on la couvre d'un voile, ils ne se donnent plus la peine de la lever. On fait apprendre les fables de La Fontaine à tous les enfants, et il n'y en a pas un seul qui les entende. Quand ils les entendraient, ce serait encore pis, car la morale en est tellement mêlée et si disproportionnée à leur âge qu'elle les porterait plus au vice qu'à la vertu. Ce sont encore là, direz-vous, des paradoxes, soit, mais voyons si ce sont des vérités. Je dis qu'un enfant n'entend point les fables qu'on lui fait apprendre, parce que quelque effort qu'on fasse pour les rendre simples, l'instruction qu'on en veut tirer force d'y faire entrer des idées qu'il ne peut saisir, et que le tour même de la poésie, en les lui rendant plus faciles à retenir, les lui rend plus difficiles à concevoir, en sorte qu'on achète l'agrément aux dépens de la clarté. Sans citer cette multitude de fables qui n'ont rien d'intelligible ni d'utile pour les enfants, et qu'on leur fait indiscrètement apprendre avec les autres parce qu'elles s'y trouvent mêlées, bornons-nous à celles que l'auteur semble avoir faites spécialement pour eux. Je ne connais dans tout le recueil de La Fontaine que 5 ou 6 fables où brille éminemment la naïveté puérile. De ces 5 ou 6, je prends pour exemple la première de toutes, parce que c'est celle dont la morale est le plus de tout âge, celle que les enfants saisissent le mieux, celle qu'ils apprennent avec le plus de plaisir, enfin celle que, pour cela même, l'auteur a mis par préférence à la tête de son livre. En lui supposant réellement l'objet d'être entendu des enfants, de leur plaire et de les instruire, cette fable est assurément son chef-d'œuvre. Qu'on me permette donc de le suivre et de l'examiner en peu de mots. Le corbeau et le renard, fable. Maître corbeau sur un arbre perché, maître. Mais que signifie ce mot en lui-même? Que signifie-t-il au-devant d'un nom propre? Quel sens a-t-il dans cette occasion? Qu'est-ce qu'un corbeau? Et qu'est-ce qu'un arbre perché? L'on ne dit pas sur un arbre perché, l'on dit perché sur un arbre. Par conséquent, il faut parler des inversions de la poésie. Il faut dire ce que c'est que prose et que vers. Tenait dans son bec un fromage. Quel fromage? Était-ce un fromage de Suisse, de Brie ou de Hollande? Si l'enfant n'a point vu de corbeau, que gagnez-vous à lui en parler? Et s'il en a vu, comment concevra-t-il qu'ils tiennent un fromage à leur bec? Faisons toujours des images d'après nature. Maître renard, par l'odeur alléchée, encore un maître. Mais pour celui-ci, c'est à bon titre. Il est maître passé dans les tours de son métier. Il faut dire ce que c'est qu'un renard et distinguer son vrai naturel du caractère de convention qu'il a dans les fables. Alléché, ce mot n'est pas usité. Il le faut expliquer. Il faut dire qu'on ne s'en sert plus qu'en vers. L'enfant demandera pourquoi l'on parle autrement en vers qu'en prose, alors que lui répondrez-vous? Alléché par l'odeur d'un fromage. Ce fromage, tenu par un corbeau perché sur un arbre, devait avoir beaucoup d'odeur pour être senti par le renard dans un taillis ou dans son terrier. Est-ce ainsi que vous exercez votre élève à cet esprit de critique judicieuse qui ne s'en laisse imposer qu'à bonnes enseignes et sait discerner la vérité du mensonge dans les narrations d'autrui ? Lui tint à peu près ce langage, ce langage. Alors les renards parlent donc ? Ils parlent donc la même langue que les corbeaux ? Sage précepteur, prends garde à toi. Pèse bien ta réponse avant de la faire. Elle importe plus que tu n'as pensé. Eh, bonjour, monsieur du corbeau. Monsieur. Titre que l'enfant voit tourner en dérision même avant qu'il sache que c'est un titre d'honneur. Ceux qui disent monsieur du corbeau auront bien d'autres affaires avant que d'avoir expliqué ce dû. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Cheville, redondance inutile. L'enfant, voyant répéter la même chose en d'autres termes, apprend à parler lâchement. Si vous dites que cette redondance est un art de l'auteur, qu'elle entre dans le dessein du renard qui veut paraître multiplier les éloges avec des paroles, cette excuse sera bonne pour moi, mais non pas pour mon élève. Sans mentir, si votre ramage, sans mentir, on ment donc quelquefois ? Où en sera l'enfant si vous lui apprenez que le renard ne dit sans mentir que parce qu'il ment ? Répondait à votre plumage, répondait, mais que signifie ce mot ? Apprenez à l'enfant à comparer des qualités aussi différentes que la voix et le plumage. Vous verrez comme il vous entendra. Vous seriez le phénix des hôtes de ces bois. Le phénix. Qu'est-ce qu'un phénix ? Nous voici tout à coup jetés dans la menteuse antiquité, presque dans la mythologie. Les hôtes de ces bois, quel discours figuré ! Le flatteur ennoblit son langage et lui donne plus de dignité pour se rendre plus séduisant. Un enfant entendra-t-il cette finesse ? Sait-il seulement, peut-il savoir ce que c'est qu'un style noble et un style bas ? À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Il faut avoir éprouvé déjà des passions bien vives pour sentir cette expression proverbiale. Et pour montrer sa belle voix, n'oubliez pas que pour entendre ce vers et toute la fable, l'enfant doit savoir ce que c'est que la belle voix du corbeau. Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Ce vers est admirable. L'harmonie seule en fait l'image. Je vois un grand vilain bec ouvert, j'entends tomber le fromage à travers les branches. Mais ces sortes de beautés sont perdues pour les enfants. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, ah voilà donc la bonté transformée en bêtise. Assurément, on ne perd pas de temps pour instruire les enfants. Apprenez que tout flatteur, maxime générale, nous n'y sommes plus, vit aux dépens de celui qui l'écoute. Jamais enfants de 10 ans n'entendit ce vers-là. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Ceci s'entend, et la pensée est très bonne. Cependant, il y aura encore bien peu d'enfants qui sachent comparer une leçon à un fromage et qui ne préférassent le fromage à la leçon. Il faut donc leur faire entendre que ce propos n'est qu'une raillerie. Que de finesse pour des enfants ! Le corbeau, honteux et confus, autre pléonasme. Mais celui-ci est inexcusable. Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jura. Quel est le sot de maître qui ose expliquer à l'enfant ce que c'est qu'un serment ? Voilà bien des détails. Bien moins cependant qu'il n'en faudrait pour analyser toutes les idées de cette fable et les réduire aux idées simples et élémentaires dont chacune d'elles est composée. Mais qui est-ce qui croit avoir besoin de cette analyse pour se faire entendre la jeunesse ? Nul de nous n'est assez philosophe pour savoir se mettre à la place d'un enfant. Passons maintenant à la morale. Je demande si c'est à des enfants de 10 ans qu'il faut apprendre qu'il y a des hommes qui flattent et mentent pour leur profit. On pourrait tout au plus leur apprendre qu'il y a des railleurs qui persiflent les petits garçons et se moquent en secret de leur sotte vanité. Mais le fromage gâte tout. On leur apprend moins à ne pas le laisser tomber de leur bec qu'à le faire tomber du bec d'un autre. C'est ici mon second paradoxe, et ce n'est pas le moins important. Suivez les enfants apprenant leurs fables, et vous verrez que quand ils sont en état d'en faire l'application, ils en font presque toujours une contraire à l'intention de l'auteur, et qu'au lieu de s'observer sur le défaut dont on les veut guérir ou préserver, ils penchent à aimer le vice avec lequel on tire parti des défauts des autres. Dans la fable précédente, les enfants se moquent du corbeau, mais ils s'affectionnent tous au renard. Dans la fable qui suit, vous croyez leur donner la cigale, pour exemple, et point du tout, c'est la fourmi qu'ils choisiront. On n'aime point à s'humilier, ils prendront toujours le beau rôle. C'est le choix de l'amour-propre, c'est un choix très naturel. Or, quelle horrible leçon pour l'enfance! Le plus odieux de tous les monstres serait un enfant avare et dur qui saurait ce qu'on lui demande et ce qu'il refuse. La fourmi fait plus encore et lui apprend à railler dans ses refus. Dans toutes les fables où le lion est un des personnages, comme c'est d'ordinaire le plus brillant, l'enfant ne manque point de se faire lion. Et quand il préside à quelque partage bien instruit par son modèle, il a grand soin de s'emparer de tout. Mais quand le moucheron terrasse le lion, ah, c'est une autre affaire. Alors l'enfant n'est plus lion, il est moucheron. Il apprend à tuer un jour à coups d'aiguillon ce qu'il n'oserait attaquer de pied ferme. Dans la fable du loup maigre et du chien gras, au lieu d'une leçon de modération qu'on prétend lui donner, il en prend une de licence. Je n'oublierai jamais d'avoir vu beaucoup pleurer une petite fille qu'on avait désolée avec cette fable, tout en lui prêchant toujours la docilité. On eut peine à savoir la cause de ses pleurs, on la sut enfin. La pauvre enfant s'ennuyait d'être à la chaîne, elle se sentait le cou pelé, elle pleurait de n'être pas loup. Ainsi donc, la morale de la première fable citée est pour l'enfant une leçon de la plus basse flatterie, celle de la seconde une leçon d'inhumanité, celle de la troisième une leçon d'injustice, celle de la quatrième une leçon de satire et celle de la cinquième une leçon d'indépendance. Cette dernière leçon, pour être superflue à mon élève, n'en est pas plus convenable au vôtre. Quand vous leur donnez des préceptes qui se contredisent, quels fruits espérez-vous de vos soins? Mais peut-être, à cela près, toute cette morale qui me sert d'objection contre les fables fournit-elle autant de raisons de les conserver? Il faut une morale en parole et une en action dans la société, et ces deux morales ne se ressemblent point. La première est dans le catéchisme, où on la laisse. L'autre est dans les fables de La Fontaine pour les enfants et dans ses contes pour les mères. Le même auteur suffit à tout. Composons, monsieur de La Fontaine. Je promets, quant à moi, de vous lire avec choix, de vous aimer, de m'instruire dans vos fables, car j'espère ne pas me tromper sur leur objet. Mais pour mon élève, permettez que je ne lui en laisse pas étudier une seule, jusqu'à ce que vous n'ayez prouvé qu'il est bon pour lui d'apprendre des choses dont il ne comprendra pas le quart, que dans celles qu'il pourra comprendre il ne prendra jamais le change, et qu'au lieu de se corriger sur la dupe, il ne se formera pas sur le fripon. En notant ainsi tous les devoirs des enfants, j'ôte les instruments de leur plus grande misère, savoir les livres. La lecture est le fléau de l'enfance, et presque la seule occupation qu'on lui sait donner. À peine à 12 ans, Émile saura-t-il ce que c'est qu'un livre? Mais il faut bien au moins, dira-t-on, qu'il sache lire, j'en conviens. Il faut qu'il sache lire, quand la lecture lui est utile. Jusqu'alors, elle n'est bonne qu'à l'ennuyer.